France Info. France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag des informés également sur le canal 27 de la TNT. Alors ce soir c'est les Césars, dimanche sont les Oscars et demain Angers-Guingamp. Voilà, alors bon, on imagine bien que les Oscars ont intérêt à s'accrocher pour rivaliser, mais c'est vrai qu'il y a peut-être un ventre mou. Voilà, dans ce week-end de récompenses cinématographiques. Alors pourquoi le samedi ne pas faire une cérémonie pour récompenser le film le plus piraté de l'année ? Non mais c'est vrai, là au moins ça réconcilie vraiment le milieu du cinéma et les spectateurs. Par exemple, en 2016 c'était Deadpool, pour 2017 on ne sait pas encore, mais on le sent, je ne sais pas pourquoi, il n'y aura ni Christian Clavier, ni Kev Adams. Et au César non plus, donc finalement c'est plutôt pas mal cette cérémonie. D'ailleurs on sera en direct à 20h45 depuis la salle Pleyel, on aura l'occasion d'en reparler. Et eux ils regardent l'actualité depuis la coulisse et ce soir les informés de France Info reçoivent Emmanuel Pierrat. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes avocat, écrivain, président du Pen Club de France et vous sortez non pas un livre mais carrément une collection maintenant. C'est la collection Les Grands Procès, hein. C'est publié chez Point. Les trois premiers volumes on peut trouver Jugé mai 68 avec l'affaire Goldman, le J'accuse, l'affaire Dreyfus et Omar Mathué, l'affaire Radat. Donc c'est publié chez Point et c'est sorti depuis le 1er février. Également autour de la table, nous trouvons Virginie Petit, bonsoir.
Bonsoir.
De Courrier International, le communicant Emery Doligé, bonsoir.
Bonsoir.
Et Étienne Girard, bonsoir, de bonsoir. Marianne. Et ce soir, nous parlerons donc cinéma, des paillettes et de la politique. Nous parlerons également d'Emmanuel Macron et la danse des 7 sondages, de ce qui se passe en Italie ce week-end. C'est-à-dire il y a des élections très importantes. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Tiens, une question. Comment Matignon choisit-il les ministres qui auront droit de faire passer leurs textes avec des ordonnances ? Une source un peu folklorique, il faut bien le dire, nous explique que ce choix s'effectue après un grand cache-cache dans les jardins de Matignon. Bon, on n'est pas sûr, ou peut-être à la courte paille. En tout cas, Muriel Pénicaud a annoncé aujourd'hui qu'elle n'userait pas d'ordonnance pour faire passer sa réforme de l'assurance chômage. Dans une interview au journal Le Parisien, aujourd'hui en France, la ministre du Travail a présenté les grandes lignes de son projet. Indemnisation des démissionnaires et des indépendants, recours aux contrats courts, contrôle accru des chômeurs, le projet reprend grande partie l'accord conclu la semaine dernière avec les partenaires sociaux. Pourtant, quand on regarde en détail, la vision d'Emmanuel Macron développée pendant la campagne semble s'être rétrécie, notamment sur les démissionnaires qui ne concerneraient que 20 à 30 000 personnes ayant un projet professionnel. Et pour l'instant, certains disent pourquoi pas, comme le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan.
Oui, à l'idée, elle est intelligente. Mais qui finance ? Pour combien de démissionnaires ? Moi, je veux voir le détail. Soit il crée des droits à minima, parce que, et il pourra les financer, et donc c'est un enfumage de communication, soit il va très loin, et qui va payer ? Les indépendants ? L'ensemble des salariés ? La collectivité nationale ? Pour combien de milliards ? Quelles sont les conditions ? Donc, bonne idée. Parce qu'il faut être honnête, moi je ne suis pas dans la critique systématique, mais bonne idée, je veux voir le détail.
Voilà Nicolas Dupont-Aignan, donc ce matin sur Public Sénat. Étienne Gérard, c'est vrai qu'indemniser les démissionnaires, c'était une idée choc, on se souvient du candidat Macron, mais à l'époque, il parlait de tout le monde. C'est-à-dire, en fait, selon une édite, il y a un million de démissionnaires en France, là on en est à 20-30 000 maintenant.
Absolument, chacun peut aller voir sur Internet, tous les salariés actifs auront droit au chômage s'ils démissionnent.
On se souvient de cette promesse.
Et maintenant, on en est à 3%. Puisque 20 à 30 000 démissionnaires, ça fait 3% des gens qui démissionnent tous les ans. Donc là, oui, c'est un peu le carrosse qui est devenu citrouille, cette promesse d'Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, c'est la même chose sur l'autre volet de la réforme de l'assurance chômage, qui est le chômage des indépendants, artisans, commerçants, professions libérales, etc. Enfin, tous ceux qui arrivent en liquidation après leur liquidation judiciaire, on leur avait dit « vous pourrez toucher le chômage ». Et finalement, c'est 800 euros pendant 6 mois. Alors ouais, qu'ils touchaient déjà le RSA, qui est entre 600 et 800 euros.
Voilà. Alors, Emmanuel Pierrat, est-ce que c'est le fait, parce qu'il y avait une note qui avait réfléchi sur combien ça coûterait d'indemniser justement tous les démissionnaires, c'était 14 milliards d'euros. Est-ce que c'est ça aussi qui a fait réfléchir le gouvernement de se dire 20, 30 000 plus un projet ?
Ah ben évidemment, il y a toujours un grand décalage dans les promesses de campagne sur le droit du travail et puis la réalité des chiffres ensuite, qui fait que généralement, on enlève 2 zéros à l'arrivée quand on a le projet véritablement. Mais moi, je suis presque soulagé parce que je m'attendais vraiment au pire. Hein. On a une ancienne DRH de Danone, c'est-à-dire pour moi vraiment l'ennemi de l'ouvrier et de l'employé comme ministre du Travail, plus un président qui globalement pense que le travail, c'est plutôt les contrats Uber qu'autre chose. Donc, je m'attendais véritablement à une plus catastrophique. Je suis presque soulagé. Malheureusement, ça va concerner que 20 à 30 000 personnes ou une poignée d'indépendants. Moi, qui suis modestement indépendant à la tête d'un cabinet d'avocats, je ne suis pas sûr que je rentre dans les critères. Si demain matin, voilà, mon entreprise s'arrête. Mais voilà, ça ne fait pas beaucoup de monde éligible. Mais comme je m'attendais à beaucoup de casse, je suis presque soulagé que ça ne ressemble à rien.
Très bien. Aymeri Deligé, est-ce qu'il n'avait pas de choix, le gouvernement, ou en même temps, c'est vrai que c'est. Alors, je dis en même temps d'ailleurs. Ouais. C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, lui qui nous répète tous les jours, je tiens à mon programme, je le respecte.
C'est compliqué votre question pour un communicant. Oui. Je vous remercie de m'avoir posé.
C'est pour ça que je vous la pose.
Ouais, non, mais je vois bien. En fait, le principe même de la communication, c'est de pas démultiplier les fronts. Il passe déjà avec l'ordonnance sur la SNCF. Il faut ménager le reste et commencer à co-construire. Les syndicats l'ont dit déjà dès le 26 février, c'était ici d'ailleurs sur France Info, qu'il fallait se calmer s'ils voulaient les avoir avec eux. Donc il y a une espèce de jeu qui est en train de se mettre en place, de communication. D'un côté, on va vite avec les ordonnances pour la SNCF, et de l'autre côté, on va prendre notre temps. Il va y avoir une dimension de consensus, ça va avancer doucement, parce que le temps que ça soit effectif, contrairement à une ordonnance, ça va prendre du temps.
Donc, ce qui paraît étonnant tout de même, c'est qu'on se dit on va vite pour la SNCF, pas pour le chômage, alors que le chômage concerne quand même un nombre de gens quand même très
important. D'accord, mais probablement que le SNCF, je ne suis pas dans leur tête, mais en imaginant qu'il soit deux secondes, peut-être que pour la SNCF, ça peut aller beaucoup plus vite, parce que c'est un point important, immédiat, à résoudre. Alors que pour le chômage, qui a pris quand même déjà, ça fait quelques dizaines d'années quand même qu'on a ce problème-là, on peut peut-être prendre le temps.
Emmanuel Pierre.
Il y a d'un côté, pour la SNCF, on va éventuellement gagner de l'argent, ou en tout cas moins en dépenser, alors que là, il va falloir en dépenser dans l'idée de l'assurance chômage élargie. Donc il est logique que ça prenne plus de temps de sortir de l'argent de ses poches. Hein. Il y a un réflexe. Moi, quand je dois payer, je suis toujours plus lent quand même que quand je dois encaisser. Mais c'est comme ça, c'est humain.
Bien sûr, c'est humain. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, c'est Diane Ferchit.
Dans les Alpes-Maritimes, 4 morts dans une avalanche. L'importante coulée de neige est produite dans le village d'Entrône, à une centaine de kilomètres au nord de Nice. Cette avalanche est la plus meurtrière de l'hiver. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. Le guide qui accompagnait le groupe va être placé en garde à vue. Et dans les deux Alpes, cette fois, une autre avalanche a emporté une skieuse de 19 ans. Elle a été retrouvée inconsciente et hospitalisée. Son pronostic vital n'est pas engagé. Deux départements toujours en vigilance orange à la neige et au verglas. Ce soir, la Moselle et le Bas-Rhin. La neige qui continue de sévir en Irlande et dans le sud de la Grande-Bretagne. Les autorités ont dû mobiliser l'armée. La quasi-totalité des transports publics irlandais sont à l'arrêt. Les aéroports fermés. Au plus fort de la tempête, 100 000 foyers se sont retrouvés privés d'électricité. La France prise pour cible par des attaques au Burkina Faso. Des groupes d'hommes armés s'en sont pris à l'ambassade de France et l'Institut français de la capitale Ouagadougou. Ils ont aussi attaqué l'état-major des forces armées du pays. 28 personnes ont été tuées, pas de Français parmi les victimes. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Alors qu'un millier d'emplois sont menacés à l'usine Ford de Blanquefort, près de Bordeaux, le ministre de l'économie va mettre en place un groupe de travail restreint en relation directe avec les représentants de l'entreprise. Bruno Le Maire veut maintenir l'activité sur le site. En début de semaine, Ford a annoncé sa décision de ne plus investir dans cette usine de Blanquefort.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info ce matin, Muriel Pénicaud, ministre du Travail, a donc dévoilé ses pistes pour réformer l'assurance chômage. Et Virginie Petit, on voit que la ministre du Travail a mis en avant cette phrase, c'est « nous sommes en phase avec le texte de l'accord », c'est-à-dire l'accord signé syndical. Ça veut dire que, comme le disait aussi Aymeri Deligé, c'est qu'à côté de ça, il y a la réforme de la SNCF, on voit que les négociations se passent pas très bien. Là, oui, c'est pour montrer que finalement, regardez, on peut arriver à quelque chose.
Oui, on peut arriver à dialoguer avec les partenaires sociaux, c'est ça. C'est ce que ça veut dire, mais c'est quand même... Là, ça manque quand même beaucoup d'ambition. Effectivement, ça n'a rien à voir avec ce qui avait été annoncé pendant la campagne. C'est pas du tout le projet présidentiel tel qu'il avait été montré, en fait. Donc, faut voir après ce que ça donnera à la suite de tout le processus. Mais effectivement, pour les indépendants qui avaient pu voter, à mon avis, enfin qui font sans doute partie de l'électorat d'Emmanuel Macron, c'est extrêmement décevant.
Etienne Gérard, elle était importante pour Emmanuel Macron. Elle est importante pour Emmanuel Macron, cette réforme, parce que bien sûr, c'est l'assurance chômage, mais elle est vraiment importante pour lui.
Oui, c'est vraiment important, je pense, parce que cette réforme, elle faisait apparaître Emmanuel Macron comme un progressiste, dans le sens où il accordait des droits nouveaux. aux salariés ou aux indépendants, aux commerçants, etc. Et c'est un des seuls pans de son programme, en fait, où il accordait des droits nouveaux aux gens. Et là, on a abouti à ce que ces droits nouveaux, en fait, ils soient réduits à portions congrues. Donc, il y a un vrai problème de cohérence par rapport à ce qu'il avait promis. Et est-ce que ça fait vraiment nouveau monde? Est-ce que là, on n'est pas un peu dans l'ancien monde vous savez, l'expression, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Est-ce qu'on serait pas un peu là-dedans dans cette affaire?
Je ne sais pas. Emery de Higé.
Moi non plus, je ne sais
mais
pas.
Si vous le savez.
Vous me demandez.
Non, parce que ce que vous disiez tout à l'heure sur se disperser, là, on l'a vu hier, il y a eu pas mal de papiers sur le gouvernement va très vite. Il lance beaucoup de réformes. En 10 mois, il en a assez 20. Est-ce que c'est se disperser ou au contraire, c'est avancer? Pour vous, je vais devant, j'ai droit devant et puis on.
Alors, les éléments de langage que j'ai entendus sur la problématique des ordonnances, c'est être efficace.
C'est ça.
Donc, ils sortent un certain nombre d'ordonnances pour justement montrer qu'ils sont efficaces. Et sur certains sujets, comme pour l'assurance chômage, comme l'efficacité n'a jamais été prouvée depuis 30 ans sur le sujet, ils se disent peut-être que là, on va peut-être pas sortir d'ordonnance, on va faire ça ensemble. Ce qui fait que si on se plante, on se plantera ensemble. C'est peut-être là qui est la réponse, au-delà de la dimension j'encaisse et je débourse.
Emmanuel Perra, justement, sur ce mélange de réformes, il y a un peu tout. Enfin, on voit que tout est mis en place, il y en a 20. Ça fait même pas un an qu'Emmanuel Macron est élu président de la République. L'opposition se plaint d'avoir la tête qui tourne, parce qu'il y en a trop. Est-ce que finalement, c'est possible de mener tout ça de front? Ça fait pas trop de dispersion?
Ça fait un peu gamin qui vient de recevoir à Noël les cadeaux, il veut tous les utiliser en même temps. Donc effectivement, ça pose un problème parce que ça fait beaucoup de jouets cassés ou abandonnés. Finalement, on les ouvre, on lance un petit tour de manivelle et puis ça s'arrête au bout de deux moments. Puis si ça marche pas, on passe à un autre sujet et on oublie qu'on a ouvert éventuellement une boîte ou allumé quelque chose. Donc ça fait beaucoup de sujets comme ça qui sont effleurés avec éventuellement des espoirs et puis derrière rien. J'en veux pour preuve la justice, j'en veux pour preuve la culture, tas de sujets dans lesquels on annonce et puis ensuite il se passe plus rien. Je vois Françoise Nyssen, ministère de la culture, devait réformer tout un tas de choses et puis l'audiovisuel ça fonctionne pas, donc d'un seul coup elle a plus le mandat et puis on sait plus où ça va. La justice, on devait réformer les tribunaux, les cours d'appel, machin, ce qui était déjà pas vraiment rassurant, et puis comme ça débute, ça commence à grogner, hop, ça s'arrête. Et là, on ne sait plus du tout où on va, il n'y a plus d'interlocuteur.
Bah pour l'audiovisuel, enfin, ce qui nous concerne, vous savez, ça devrait arriver en mars, avril.
Ça devrait, mais
je pense que ça devrait arriver, en tout cas. Allez, on va justement continuer à parler d'Emmanuel Macron, parce qu'il paraît que depuis qu'il a lu hier soir à l'Élysée le conte Pierre et le Loup, le président de la République est à fond chansons et musique pour enfants. D'ailleurs, il paraît que ce matin, il a appelé Édouard Feuilly pour lui dire il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire, mon petit Édouard. Monsieur le Président, oui. Emmanuel Macron dédramatise la série Mauvais Sondage qui vient de s'abattre sur lui. L'ensemble des baromètres mensuels des instituts réalisés avant l'annonce lundi dernier de la réforme ferroviaire donnait l'exécutif quasiment systématiquement en baisse, avec notamment une chute de popularité de 11 points pour le président dans une enquête publiée par le Huffington Post. Alors bien sûr, le président de la République dit qu'il ne s'intéresse pas à ses cours, mais les Français semblent véritablement, en fait, à son propos, divisé. D'un côté, il plébiscite des réformes comme par exemple l'éducation, le service militaire, et de l'autre, s'inquiète pour leur pouvoir d'achat, comme l'explique Édouard Le Serre, il est directeur adjoint chez BVA.
Un certain nombre de Français lui reconnaissent le fait qu'il met en œuvre beaucoup de réformes, qu'il est dans l'action, qu'il est presque dans l'activisme, sans cesse en train d'essayer de faire bouger les choses, mais d'autres disent attention à la manière de faire, attention, et là, les ordonnances, la manière de passer un peu en force, comme disent les Français, effectivement, est un des points sur lesquels ils vont effectivement reconnaître une forme de crispation. Ils nous parlent déjà de la SNCF, tout en étant relativement favorable, on l'a vu dans d'autres enquêtes, au principe de faire bouger la SNCF.
Mais c'est vraiment la méthode,
la manière de faire, effectivement, cette forme de brutalité, disent certains, ce passage en force, c'est quelque chose qui peut crisper un certain nombre de Français.
Alors, Édouard Le Serre, directeur adjoint de BVA sur RTL. C'est vrai, Emery de Higé, on a l'impression qu'il y a un sentiment contradictoire chez les Français. On le voit, il y a un plébiscite de certaines réformes, et de l'autre, c'est pas pour ça qu'ils accordent une totale confiance à l'exécutif.
C'est pas à vous que je vais rappeler, Jean-Mathieu, avec combien de pourcents il a été élu?
24%. Enfin, au premier tour.
Au premier tour, 24% des Français ont suivi sa démarche. 24%. On est encore très, très au-dessus. Ensuite, il y a un autre point. Il a été élu, les sondages ont considérablement monté, et ensuite ont considérablement descendu. Et ensuite, ils ont remonté. Et maintenant, on est en train de parler d'une redescente. Donc, on est en train de créer une forme de sinusoïdale qui est... Enfin, je sais pas, mais moi, d'un point de vue de communication, c'est absolument impossible de l'interpréter. C'est juste... C'est des moments. En plus, ce que vous disiez sur le Huffington Post est vrai, et à côté de ça, il y a les échos qui montent, qui grimpent. Donc, enfin, je sais pas, moi, interpréter des sondages qui vont dans tous les sens. Et déjà, avant, on avait du mal à les interpréter et tout le monde avait gagné à la fin. Alors maintenant, encore plus.
Vous le voyez comment, vous, justement, ce sentiment contradictoire, Emmanuel Pierre Asselier? On l'a vu hier, par exemple, il y a beaucoup de réformes qui sont soutenues. Hier, sur France Info, on publiait une enquête Odoxa montrant que 72% des Français interrogés, par exemple, souhaitent la fin du statut de cheminot. Mais c'est pas ça qui fait monter, pareil, sur Notre-Dame-des-Landes. Les gens soutiennent l'action du Premier ministre d'arrêter Notre-Dame-des-Landes, mais c'est pas ça qui fait monter.
Non, parce que de l'autre côté, Notre-Dame-des-Landes, moi j'étais pour l'arrêt, mais ça donne l'impression également de reculer à la première contestation. Donc, Et puis en plus, les images des zadistes, et ensuite qui brûlaient tout un tas de choses, n'étaient pas particulièrement sympathiques, hein, quel que soit le penchant qu'on peut avoir pour la cause du développement durable et contre les aéroports absurdes. Non, ce qui se passe par ailleurs, ce qui moi me rassure pas du tout, c'est que il y a un seul moment où ils progressent dans ces sondages ou ces derniers sondages, et c'est des électeurs du Front National. C'est jamais un bon signe hein, pour l'homme de gauche que je suis. Si je puis me permettre, flippant cette expression. Et puis alors après, évidemment, comme ça navigue à vue et que c'est des à-coups, on s'est payé depuis une semaine des plongées de 12 heures à peu près par corps électoral, pour donner l'impression qu'il y a moins de zapping. Donc 12 heures, les agriculteurs se le sont cognés à la porte de Versailles.
12h30.
Aujourd'hui, il a squatté la maison d'arrêt de Fresnes, ce qui fait qu'il n'y avait plus de sortie possible, plus de parloir avocat, plus de visite pour les famille, parce que ça lui avait pris d'un seul coup de donner l'impression qu'il y passait longtemps. Ce qui était bien, parce qu'aucun chef de l'État n'est jamais allé visiter une prison. Donc ça, c'était plutôt pas mal.
Pourtant, si. Il y a Nicolas Sarkozy, François Hollande.
Aller vraiment visiter une prison, ça faisait très, très, très longtemps qu'un président n'avait pas fait. Non, ils étaient passés deux minutes.
Ah,
vous dire bonjour aux surveillants,
d'accord.
C'est pas la même chose que de passer du temps véritablement. Il est à passer la journée. Est-ce qu'il fallait bloquer l'administration pénitentiaire toute la journée aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Et puis, il y a eu hier, il nous a fait Châlons en Champagne, exactement. Avec les élus locaux, en donnant l'impression que ça y est, il s'enfonçait vraiment dans le sujet et qu'il n'allait pas faire une mesurette ou un petit survol. Voilà, donc c'est, moi, ça ne me rassure pas parce que c'est un petit côté on essaie une chose, ça ne marche pas et on repart vers une autre méthode. Et puis donc, la semaine prochaine, ça va être à nouveau des petits effets zapping et d'annonces très rapides.
Étienne Gérard, on le voit, hein, là, les déplacements se multiplient. En ce moment, c'est souvent une tactique à utiliser hein, par les présidents, c'est-à-dire se reconnecter avec le terrain pour reprendre un peu le lead, en fait.
Oui, il peut le faire autant de fois qu'il veut, ces déplacements sur le terrain, en province, etc. Le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'aujourd'hui, il est confronté à l'effet boomerang de ce qu'il a promis. Il a promis énormément de choses. Il a promis un nouveau monde politique. Les Français ont beaucoup aimé ça. Sauf qu'aujourd'hui, les Français, ils se disent, qu'est-ce que ça change dans ma vie, concrètement, la politique d'Emmanuel Macron? Donc, ils viennent à leur rencontre, c'est bien. Mais il y a un moment, il va falloir des résultats concrets. Et notamment en termes de pouvoir d'achat.
Oui, il y a eu une petite augmentation des salaires fin janvier, c'est un début de changement.
Oui. Non, mais après, c'est vrai sur l'histoire du pouvoir d'achat.
Pas forcément spectaculaire.
Voilà, on va y revenir dans un instant.
C'est un début, bien sûr. Ça fait que 6 mois qu'il est là.
On y revient dans un instant. L'info à 20h20, Diane Fierschit.
Emmanuel Macron réaffirme le plein engagement de la France au Sahel après les attaques au Burkina Faso. Au moins 28 personnes tuées, des hommes armés s'en sont pris à l'ambassade de France, l'Institut français et l'état-major des forces armées à Ouagadougou. Aucune victime française n'est à déplorer. 6 assaillants ont été tués. Au moins 2 personnes abattues sur le campus de l'Université centrale Michigan dans le nord des États-Unis. Des coups de feu ont été tirés à l'intérieur de l'une des résidences universitaires. La police est à la recherche du tireur, un jeune homme de 19 ans. L'affaire Nordal-Lelandais et les familles de 2 disparus du fort de Tamiers en Savoie portent plainte pour enlèvement et séquestration. Des plaintes qui ont pour but de relancer l'enquête. Les 2 disparus sont 2 hommes âgés de 22 et 45 ans. Ils n'ont plus donné de nouvelles depuis 2011 pour l'un et 2012 pour le second. Ils ont été aperçus pour la dernière fois à un festival de musique électronique. Plus aucun département en vigilance orange à la neige et au verglas ce soir. La vague de froid s'éloigne de la France. Elle a laissé quelques traces dans le sud. En fin d'après-midi, 3000 foyers étaient encore privés d'électricité dans le Gard et l'Hérault. Un ruban blanc pour soutenir les victimes d'agressions sexuelles et de viols dans le milieu du cinéma. Il ornera les tenues de soirée de la 43e cérémonie des Césars. Les récompenses du cinéma français débutent à 21h. Les favoris sont les films Au revoir là-haut et 120 battements par minute, 13 nominations chacun.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de ces variations de sondages pour Emmanuel Macron. C'est une sorte de fête à neuneux sur pattes, hein, parce que ça n'arrête pas, ça descend, ça monte. C'est vraiment assez, assez incroyable. Mais juste une chose, c'est vrai, Virginie Petit, la question qu'on peut se poser, Aymeric de Ligier le disait tout à l'heure, au premier tour, Emmanuel Macron était bien sûr en tête, il a fait 24%. Mais est-ce que vous avez l'impression que les Français le connaissent véritablement?
Alors, c'est... C'est intéressant parce que justement, c'est ce qui nous revient parfois de la presse étrangère et notamment des dessinateurs qui le croquent, et notamment Bertrams qui est néerlandais, tous constatent une distance avec les Français. C'est un président qui garde ses distances et qui, en tout cas en apparence, n'arrive pas à tisser un lien aussi chaleureux que d'autres. Et donc cette distance, elle existait déjà avant, au moment des élections. 24%, c'est pas énorme. Et il a réussi sans doute à convaincre au deuxième tour. Ça, il y a pas de doute. Mais il a pas réussi forcément à tisser un lien et un lien si fort que ça. Mais par ailleurs, moi, j'étais pas tout à fait d'accord sur le côté il squatte pendant 8 heures. Je trouve que c'est bien qu'il y a un peu d'approfondissement, même si c'est juste une journée, 12 heures au salon de l'agriculture. Mais les 8 heures à Fresnes, moi, ça me semble indispensable quand on est en train d'entamer toute une réforme concernant le terrorisme et la radicalisation, d'aller passer un moment dans le quartier où sont normalement tous ces radicalisés. Ça me paraît essentiel. Et quand on veut entamer des réformes sur la justice et le système pénal, oui, ça me paraît essentiel.
Non, c'est très bien. C'est simplement que ça me faisait sourire, pardon, après le côté « je ne passe qu'une demi-heure et je suis très en retard et j'en aurai qu'un quart d'heure à vous consacrer » qu'on a eu depuis son élection. Donc là, je saluais le fait qu'il aille en prison et qu'il y passe du temps. C'est simplement que trois séquences dans la semaine quasiment, en passant 12 heures sur place dans trois lieux différents, c'est plus de la communication qu'une politique à long terme.
Virginie Petit.
Mais par ailleurs... Et donc, on le constate, on le voit beaucoup, il s'expose beaucoup, donc forcément, ça fait varier aussi. Enfin, voilà, il est très présent. Donc, il est très présent médiatiquement, donc forcément, à un moment, ça varie.
Est-ce que c'est pas le risque aussi, Amaury Dohigey, finalement, à tellement concentré autour de lui que finalement, il n'y a plus de paratonnerre, le Premier ministre, on le connaît moins, donc le paratonnerre, c'est lui. Et donc, à se prendre, finalement, Emmanuel Macron, la foudre, parfois des contestations, des colères, alors qu'avant, on se disait que c'était davantage le Premier ministre.
Alors, sans doute, une petite thèse qui fait peut-être son chemin, c'est pas un président affect. Il est pas du tout dans l'affect avec les gens. Il est dans une relation fonctionnelle avec les gens. C'est-à-dire qu'il va s'adresser à des corps de métier, il va essayer de résoudre leurs problèmes, etc., etc. Sans jamais essayer de jouer comme l'affect. Sarkozy avait tenté la même chose, mais il était totalement dans l'affect, donc ça, c'était énorme, ça se voyait pas. Là, le mec est froid. Enfin, c'est un président froid, et il fait le job. Et ce qu'on lui demande, c'est de faire le job. Dans sa communication, on le voit. Alors oui, il va effectivement, mais va vraiment passer 8 heures dans une prison, il va vraiment au salon de l'agriculture. Si ça avait été de la com, on a eu des présidents qui sont allés dans les prisons, Hollande, Sarkozy, ils sont passés à 10 minutes. Là, il y va vraiment. Donc, il y a une question qui se pose. Il n'y a pas de résultat. Attention, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il y a des résultats. Il y a une question qui se pose, c'est est-ce que c'est puisque ce n'est pas un président affect et qu'il est dans le fonctionnel, maintenant, est-ce qu'il va réussir à avoir des résultats? La question est là.
Etienne Gérard, il y a quand même aussi une chose, c'est qu'on voit quand même dans ces mêmes sondages, si certaines personnalités politiques progressent, on voit que c'est pas quand même un amour passionnel des Français pour les politiques. Et on le voit, cette abstention qui est quand même prégnante, c'est quand même ça aussi le boulet de ce monde politique. Et là, on se rappelle 60% d'abstention aux législatives, aux élections législatives. Il y a quand même un vrai rejet là, de la classe politique en général. Quoi.
C'est sûr, et pour l'instant, c'est la grande chance d'Emmanuel Macron d'ailleurs, c'est que face à lui, personne n'émerge réellement. D'ailleurs, il y a une seule personne, une politique qui est populaire aujourd'hui, c'est Nicolas Hulot, qui n'est pas vraiment... issu du monde politique. Donc c'est vrai que Emmanuel Macron, il promettait de nous redonner confiance, etc., en la politique. C'est pas forcément le cas. Mais à côté de lui, il y a absolument personne qui fait consensus et qui réussit même à faire adhérer tout un camp politique à ses thèses.
Mais même une pire.
Non, effectivement, le paradoxe, c'est que d'un côté, les électeurs de gauche, on va dire comme moi, je vais le répéter plusieurs fois cette soirée,
Donner un post-it.
Ne considèrent que c'est un homme de droite et donc par conséquent, ils ne peuvent pas adhérer. Les électeurs de droite se sont pris l'augmentation de la CSG, la baisse en gros de la retraite, ce qui fait que les vieux de droite, pour faire simple, sont mécontents. C'est très 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 basique. Et le paradoxe, c'est que l'offre politique à côté ne leur plaît pas. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez ne fait pas de beau score, Marine Le Pen, elle c'est la déconfiture ou la déroute, et même Jean-Luc Mélenchon avoue qu'il n'arrive pas à trouver une prise. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à gagner du terrain. Ce qui fait que finalement, Macron, malgré tous ses défauts, il est seul au centre. Puis en plus, c'est vrai qu'il est entouré par soit des bras cassés, soit des incompétents, soit des gens plutôt antipathiques, à part Nicolas Hulot, qui est quand même plutôt sympathique. Il y en a un ou deux. Mais Jean-Yves Le Drian est aux abonnés absents. Édouard Philippe retient à peine son nom. Enfin, moi, ça va, et vous aussi, mais une partie des Français ne savent pas qui est Premier ministre. Et puis derrière, Nicole Belloubet, tout ça, c'est vraiment, ou mieux, dangereux, au pire, totalement inexistant. existants.
J'ai l'impression, Emmanuel Pierre, que vous n'étiez pas invité hier à Pierre et Leloup à l'Élysée.
Non, c'est pas
où je me trompe.
C'est pour ça que je l'ai pas. Je n'étais pas chargé de donner la réplique au président. Ou alors j'aurais été Leloup.
Leloup, peut-être. Allez, dans un instant, nous allons parler des élections en Italie et du populisme en Europe. Et puis on ira faire un tour également au César et on parlera du mouvement lancé par les actrices cette semaine pour venir en aide aux victimes de harcèlement. Voilà la suite du programme des informés de France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, après Noël, la Saint-Valentin et maintenant le ski, on se dit que vu le budget pour la suite, il va falloir faire des économies. Alors qu'est-ce qu'on fait? On active notre radar à bonnes affaires.
Ne cherchez pas plus loin. Les Happy Box Days de SFR sont prolongés. Jusqu'au 5 mars, la box starter est à seulement 4,99€ par mois pendant 12 mois, puis 34,99€. Rendez-vous en magasin SFR.
Happy Box Days, les super jours de la box. Offre soumise à conditions d'éligibilité réservée aux 25 000 premiers clients. Engagement 12 mois, location box offerte, frais d'ouverture de service 49€.
Tu m'as l'air bien pressée, ma chérie. T'as un rendez-vous ?
J'ai pas un rendez-vous, j'ai le rendez-vous.
C'est pour ça que tu t'es mis sur ton 31.
Je suis pas sur mon 31, je suis sur mon 30.
Ton 30 ?
Oui, sur mon 30. Pour fêter les 30 ans de Monsieur Store et profiter des 30% sur la sélection du produit anniversaire.
Donc, on va pouvoir changer nos volets, nos portes et nos fenêtres ?
Et c'est pas tout. En ce moment, des stores et des pergolas sont à gagner en participant au jeu concours Monsieur Store.
Monsieur Store ! 1000 façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet ? Appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
France Info Météo avec le CIC, banque d'une PME sur trois en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Une perturbation arrive par le sud-ouest. Demain matin, on retrouvera nos pluies du nord-ouest aux régions de l'est. Un peu de neige possible sur la Bourgogne-Franche-Comté. L'après-midi, quelques pluies éparses résisteront sur la Bretagne, la Normandie, près des frontières du nord et du nord-est également. On aura de la neige en montagne, un fort risque d'avalanche dans les Alpes. Ailleurs, quelques averses, des éclaircies, plus belles en allant vers le sud. Encore des gelées au nord le matin, prudence sur les routes. Mais l'après-midi, 6 à 9 degrés du nord de la Seine au nord-est, 9 à 17 ailleurs. Et puis dimanche, ce sera humide, une nouvelle perturbation traversera le pays avec de la pluie, de la neige en montagne. Elle sera suivie d'un ciel d'averse et ce sera plutôt doux, 8 à 12 degrés au nord, 11 à 16 au sud.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Augustin Rivet, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. Les forces de l'ordre du Burkina Faso ont repris la main ce soir sur le quartier de l'ambassade de France à Ouagadougou. Des attaques simultanées ont fait au moins 28 morts aujourd'hui. Plusieurs groupes coordonnés qui s'en sont pris à l'état-major des armées, mais aussi à l'Institut français et donc à l'ambassade dans la ville. Attaque pas encore revendiquée. Antoine Glaser est écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Afrique.
C'est quand même la première fois qu'il y a une ambassade de France qui est vraiment visée. C'est vrai qu'en janvier 2016, en août 2017, c'était des restaurants, des cafés, c'était des expatriés qui étaient visés. C'est difficile de ne pas lier cette attaque très ciblée à l'opération française qui a eu lieu dans la nuit du 13 au 14 février à la frontière algérienne contre un certain nombre de groupes armés djihadistes. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est quand même une représaille de ces groupes, mais de taper comme ça en pleine capitale à Ouagadougou, c'est vraiment une représailles, c'est une stratégie en disant, voyez, on vous touche là, vous ne nous attendez pas.
Antoine Glaser, écrivain et journaliste, il n'y a pas de victimes françaises d'après le Quai d'Orsay et Emmanuel Macron a rappelé ce soir l'engagement de la France contre le terrorisme au Sahel. Deux personnes tuées par balle sur un campus américain, la Central Michigan University. Les victimes ne sont pas des étudiants d'après la direction de cette université. Tout serait né d'une dispute. Le tireur est un homme de 19 ans qui n'a pas encore été arrêté. L'Union européenne prévoit une possible taxation supplémentaire sur des importations de produits américains, le whisky, les Harley-Davidson, les vêtements Levi's. Une réponse après la proposition de Donald Trump d'augmenter les impôts sur les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. L'Organisation mondiale du commerce craint une escalade qui aboutirait sur une guerre commerciale. L'Observatoire syrien des droits de l'homme avance France maintenant le nombre de 617 civils tués en Ghouta orientale. Les bombardements du régime syrien ont commencé voilà 12 jours maintenant dans cette enclave rebelle, c'est près de Damas. Les aides internationales ne parviennent toujours pas sur place. Aux Nations Unies, le commissaire aux droits de l'homme a parlé aujourd'hui de possibles crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Une avalanche a tué 4 randonneurs à ski ce vendredi sur la commune d'Entraune, c'est dans les Alpes-Maritimes. Ils étaient accompagnés d'un guide qui sera placé en garde à vue, enquête ouverte pour homicide involontaire. Il s'était éloigné du domaine skiable. Une cinquième skieuse hors piste est morte aujourd'hui sur un autre secteur. Le sommet de la Meije entre Isère et Hautes-Alpes, elle aussi emportée par une avalanche. Une centaine de signalements reçus aujourd'hui par le CSA, des téléspectateurs choqués par des propos tenus sur CNews ce matin par le producteur Dominique Besnéard. Il expliquait vouloir gifler la militante Caroline Dehas suite à ses prises de position féministes. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel examinera le dossier prochainement. Un peu de football avant les Césars. 28e journée de Ligue 1. Nice et Lille sont sur le terrain. 73 minutes de jeu. Lille a égalisé un partout. 20h33 sur France Info. Les informés reprennent leurs droits. Toujours avec Jean-Mathieu Pernin.
20h-21h. Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, et eux, ils scintillent tout simplement, sous la boule de à facette de l'actualité. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Emmanuel Pierra, avocat, écrivain et président du Pen Club, également Virginie Le Petit de Courrier International, le communicant Emery Doliger et Étienne Gérard de Marianne. Vu que ce week-end, ce sera donc très cinéma, les Italiens vont-ils plébisciter dimanche un long métrage n'avait pas très bien marché, je ne sais pas si vous l'avez vu, à savoir Le Retour de la Momie, avec bien sûr dans le rôle-titre Silvio Berlusconi, l'homme de 81 ans à la jeunesse éternelle et qui se refuse à toute chirurgie esthétique. C'est normal, hein, ça pourrait abîmer son lifting. Et donc de retour, associé à deux partis d'extrême droite, La Liga et Fratelli d'Italia, son parti Forza Italia pourrait sortir vainqueur des législatives de dimanche prochain. Le Cavaliere ne pourrait pas devenir président du Conseil une nouvelle fois, car il est interdit de toute fonction publique jusqu'en 2019 après une condamnation pour fraude fiscale. Le bloc de droite serait donc en tête devant le mouvement 5 étoiles et la coalition de gauche emmenée par Matteo Renzi. Un nouveau populisme italien donc apparaîtrait-il dimanche après une poussée d'un parti xénophobe en Allemagne cet automne. Des discours qui commencent à avoir de l'écho, comme celui du président de la Lega, Matteo Salvini.
On me dit que quelqu'un au sein de l'Union européenne demande des garanties de la part de l'Italie. Nous, nous irons au gouvernement pour faire exactement le contraire. Quelqu'un a dit plus d'Europe, moi je dis plus d'Italie. Ce sont les Italiens qui ont besoin d'être protégés et d'avoir plus de garanties contre l'invasion des étrangers. Nous, nous gouvernerons dans une Europe qui fait peu de choses, mais qui les fait bien et qui défend nos frontières.
Possiblemente che difenda i confini. Voilà, Matteo Salvini, donc président de la Lega. Juste une chose pour expliquer à nos auditeurs, Virginie Petit, pourquoi elle est si importante, cette élection en Italie ?
Elle est très très importante parce que ce sont les élections générales. Alors ça va être très différent. On connaît pas nous ça. C'est en un tour d'un seul coup, le Parlement est renouvelé. Ce qui c'est pas du tout de la même façon dont ça se passe chez nous où il y a la présidentielle puis les législatives avec à chaque fois deux tours. Et donc ça va rebattre complètement les cartes. Et avec ça va être très compliqué parce que il va falloir 40% des voix pour pouvoir gouverner, pour avoir le droit de gouverner.
Donc forcément des alliances.
Et là, il y a eu des alliances qui se sont formées avant l'élection. Il faudra voir au lendemain de l'élection, donc dimanche soir ou lundi, comment ça risque de se reformer, parce que tout n'est pas joué encore. Mais c'est quand même pas tout n'est pas garanti.
On voit quand même un bloc de droite, donc en effet.
Oui, un bloc de droite très à droite.
Silvio Berlusconi, donc voilà, plus associé à droite. Ouais. Mais derrière ce mouvement 5 étoiles, donc c'est ovniesque qui est à la fois à droite, à gauche. Est-ce que ça veut dire que l'Italie a totalement succombé au parti populiste ?
Alors, ça veut dire que l'Italie, oui, écoute les sirènes du populisme. Et puis, il faut comprendre... Ces discours qu'on entend qui sont anti-Europe, alors que l'Italie était un pays très très europhile, on part d'un pays qui... C'est la troisième puissance économique de la zone euro, l'Italie. Mais elle a pas de voix européenne réellement. Elle arrive pas à se faire entendre. C'est un pays qui est quand même un peu resté tout seul dans la gestion de la crise des migrants. Enfin, en tout cas, qui est avec la Grèce, vraiment sur le front. qui, là, la solidarité européenne n'a absolument pas joué. Enfin, il faut quand même le reconnaître. Et on leur demande en plus de, donc, de respecter des conditions budgétaires. Et c'est de ça qu'ils parlaient, hein.
C'est ça, exactement.
C'est dit, les trois, en gros, les 3%, vous pouvez toujours courir, on s'y tiendra pas. C'est ça qu'ils annoncent. Donc, on leur demande de tout respecter, mais ils se sentent, eux, déclassés. C'est vraiment ce sentiment-là qui est. Et l'Italie est par ailleurs un pays vieillissant. C'est un pays qui fait moins d'enfants, les jeunes s'en vont, et ça peut expliquer aussi cette espèce d'oreille qui est prêtée à ces discours-là.
Emmanuel Pierrat, quand on voit, en effet, ces partis populistes, quand on a regardé, forcément, on n'a pas tous regardé avec précision ce qui se passait en Italie, mais on voit que l'immigration est prégnante. Ça veut dire que, comme le disait Virginie, est-ce que l'Europe a sa responsabilité aussi dans ce qui se passe, ce qui pourrait se passer dimanche?
Pas l'immigration qui est prégnante, c'est le débat sur l'immigration.
Le débat, l'immigration,
si je puis me permettre, rectificatif, idéologique quand même,
bien
important.
Bien sûr.
Donc, voilà.
Bien sûr. Non, mais je le disais dans le débat, voilà, c'était ça que je voulais dire.
Merci, Jean-Mathieu Pernin. Donc, il y a deux enjeux important, c'est effectivement d'un côté le budget et donc avec derrière une poussée d'europhobie extrêmement forte qui est très inquiétante dans un pays effectivement comme le rappelait Véronique Petit qui est quand même très européen a priori, et puis un débat polarisé sur l'immigration qui fait très peur. Il fait très peur pourquoi ? Parce que c'est pas une coalition de centre-droit comme on le présente dans la presse française ni même de droite, c'est une coalition entre un corrompu, donc Silvio Berlusconi, condamné qui ne peut pas se représenter lui-même, et à côté une clique de partis, dont deux partis quasi-mussoliniens, pour faire très simple, à peine, je caricature à peine, dont les discours sont glaçants. Ce qui est glaçant, c'est que de l'autre côté, l'offre est très 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 réduite. Matteo Renzi tout seul au milieu qui, en gros, est une espèce de social-démocratie totalement décrédibilisée. La gauche italienne totalement absente, c'est-à-dire la gauche traditionnelle. Et puis un mouvement 5 étoiles, mouvement 5 étoiles de Beppe Grillo, dont les discours ces dernières semaines dans la campagne sur l'immigration font très peur. On a l'impression d'entendre le Front National ou la Ligue du Nord. C'est glaçant. C'est les discours de Beppe Grillo, enfin du mouvement 5 étoiles, c'est pas de droit du sol pour les enfants d'immigrés. C'est on va vous mettre des low cost depuis Lampedusa pour renvoyer plus vite et moins cher les immigrés en Afrique du Nord et les clandestins et les gens qui arrivent avec des bateaux après des calvaires épouvantables. Et puis on va raccourcir aussi les délais pour traiter le droit d'asile. Ça, c'est du macronisme. Hein. C'est-à-dire, on va virer plus vite les gens qui sont pourchassés chez eux et qui fuient ou la misère ou le pouvoir.
Virginie Petit, c'est ça qui est assez étonnant avec ce mouvement, c'est qu'en effet, il y a une position assez dure sur l'immigration. Et de l'autre côté, il y a aussi, par exemple, un revenu universel. Voilà, on propose les deux. Non, mais
c'est le propre des mouvements populistes d'arriver à faire un grand écart entre des thématiques qui sont nationalistes, parce que c'est quand même un facteur très très important du populisme, le nationalisme et cette primauté à la nation et au peuple national, etc. Donc il y a ce grand écart-là, et effectivement des thèses après beaucoup plus sociales, et voilà. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est que le mouvement 5 étoiles, en réalité, est le premier mouvement dans cette élection. C'est lui qui est crédité du plus grand nombre d'intentions de
tout
vote.
Tout seul, voilà, c'est lui.
Si on arrête de compter en coalition, c'est le premier mouvement avec presque 30% des intentions de vote. Donc ça récolte quand même quelque chose. Hein.
Allez, on va continuer à en parler de ces élections en Italie qui arriveront dimanche. L'info à 20h40, Diane Ferschit.
L'avalanche la plus meurtrière de l'hiver, 4 morts dans les Alpes-Maritimes. Le guide du groupe va être placé en garde à vue, selon le procureur de la République de Nice. Une enquête a été ouverte. Le risque d'avalanche était très élevé aujourd'hui, de 4 sur une échelle de 5. En Ile-de-France, 3 mineurs mis en examen pour 12 faits de vol avec violence sur des personnes d'origine chinoise. Les victimes ont toutes déposé plainte au commissariat de Bobigny en Seine-Saint-Denis. Le mode opératoire était toujours le même. Les agresseurs repéraient leurs victimes à la sortie des transports en commun et les suivaient jusqu'à leur domicile avant de leur arracher leur sac. La France prise pour cible par des attaques au Burkina Faso. Des groupes d'hommes armés s'en sont pris à l'ambassade de France dans la capitale Ouagadougou. Ils ont aussi attaqué l'état-major des forces armées du pays. Au moins 28 personnes ont été tuées. Pas de Français parmi les victimes. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Le négociateur de l'Union européenne salue la clarté du discours de Theresa May sur l'après-Brexit. La première ministre britannique a reconnu que son pays n'aurait pas tout ce qu'il veut dans les négociations pour sa sortie de l'UE. Elle a plaidé pour un accord de libre-échange le plus large possible. Un salaire annuel de 270 000 euros brut pour Tony Estanguet au moins jusqu'en 2020, et ce en sa qualité de président du comité d'organisation olympique de Paris 2024. Le premier conseil d'administration du comité s'est tenu aujourd'hui. Sa volonté, organiser des jeux différents à moindre coût et accélérer le développement de la Seine-Saint-Denis.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot sur ces élections qui arriveront en Italie dimanche et donc ce réflexe populiste qu'on voit grandir un peu dans toute l'Europe. On se souvient de cet automne, donc l'AFD en Allemagne, et puis il faut se souvenir aussi en France, au second tour de la présidentielle, parce qu'on s'en souvient pas toujours. Il y avait donc Marine Le Pen face à Emmanuel Macron. Étienne Girard, les élections européennes, c'est l'année prochaine. En 2014, le FN est arrivé en tête. Est-ce que là, c'est un risque pour Emmanuel Macron, prononcer ou pas le Front National aux élections européennes, vu son état aujourd'hui ?
En théorie, ça devrait être un risque, dans la mesure où, normalement, les élections intermédiaires, notamment les élections européennes, sont difficiles pour le parti au pouvoir et sont favorables aux partis anti-européens qui ont une tribune rêvée pour placer leur position. Mais cette fois, pas du tout. Pour plein de raisons.
Ouais.
Parce que le Front National est en crise. La France insoumise peine à agréger la gauche. Chez les Républicains, on ne sait pas très bien si on est fédéraliste, eurosceptique, souverainiste.
Eurocritique, même maintenant, on dit. Voilà, on trouve un terme.
Donc voilà, on trouve un terme pour qui ne dit absolument rien. Et donc, le seul parti clair, à la fois clair et crédible aujourd'hui sur la question européenne, c'est le parti d'Emmanuel Macron. Et c'est la coalition que va former Emmanuel Macron avec le Modem, l'UDI et quelques forces. Donc cette fois-ci, paradoxalement, il y a toutes les chances pour que la coalition fédéraliste, européiste, fasse un très bon score aux européennes.
Oui, Emery Doliger, c'est une exception française, mais on a l'impression que, voilà ce que je disais tout à l'heure, ce second tour, on a un peu oublié en fait en France, parce que Marine Le Pen aujourd'hui a du mal dans les sondages, qu'elle a quand même rassemblé 11 millions de voix quand même au second tour, ce qui était un score historique pour le Front National.
Oui, c'était encore un score historique, mais le sujet de l'Europe, c'est un sujet qui, comme dirait l'autre, cheville au corps pour Macron. C'est un vrai sujet pour lui. Il l'a annoncé pendant la campagne.
C'était le cas du FN avant, si c'était pas avec l'euro, on ne sait plus maintenant.
Anti-Europe, alors que là, on est en construction, on est pour. Et c'est vrai que, comme vous l'avez très bien dit, à droite extrême, à gauche ou à gauche extrême, il n'y a pas d'offre. Il y a rien, voire il y a une contre-offre, ce qui fait que ça légitime encore plus la position centrale. Donc, pour répondre à la question, est-ce que En Marche ou les partis du même genre dans les autres pays européens peuvent être contre le poujadisme ? À l'évidence, oui.
Et Emmanuel Perrin, vous êtes sur ce côté poujadiste, sur le côté populiste. Est-ce qu'il y a une exception par rapport au reste de l'Europe ?
Il y a une exception, puis on aura droit à un grand frisson, effectivement, avec un Front National qui, dans les sondages, nous donnera l'impression qu'il va prendre le pouvoir. Et puis un grand soulagement, comme moi d'ailleurs, j'irai voter finalement par défaut, entre guillemets, pour La République En Marche, comme je l'ai fait l'année dernière, pour éviter le pire, mais à chaque fois avec l'assurance quand même qu'on va retomber sur nos pieds.
Ouais,
et qu'on restera quand même assez isolé, parce qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, entre l'Italie qui tourne mal, l'Allemagne avec l'AFD, l'Autriche, le président est quand même bien délirant et inquiétant, plus la Grande-Bretagne qui nous a largués pour aller chez les fous, donc ça fait quand même une Europe quand même très très très
en déconfiture.
Et l'Europe de l'Est, pas de la Pologne, de la Hongrie, de ce qui se passe en République tchèque, où alors là, ça glace encore une fois plus le sang.
En tout cas, on aura l'occasion d'y revenir bien sûr lundi pour avoir les résultats de cette élection, de ces élections législatives en Italie. Allez, il est temps pour nous, on va se rentrer petit à petit, dans le week-end, et on a retrouvé notre ticket de pressing, ça tombe bien, pour mettre notre smoking et notre nœud papillon clignotant, élégance quand tu nous tiens, puisque nous allons en direction la salle Pleyel à Paris pour rejoindre Fabrice Leclerc. Bonsoir Fabrice.
Bonsoir.
Alors, vous allez nous faire vivre la 43e cérémonie des Césars toute la soirée sur France Info, une soirée dédiée César à Jeanne Moreau cette année. Il y a deux films qui partent favoris, 120 battements par minute de Romain Campillo, Au revoir là-haut d'Albert Dupontel, 13 nominations chacun. Juste dans l'histoire des Césars, est-ce que ça porte chance d'avoir beaucoup de nominations, Fabrice ?
Non, pas forcément. Souvent, les films qui ont eu beaucoup de nominations se sont parfois repartis un peu bredouille, comme on dit. Là, cette année, c'est un peu différent. Pourquoi ? Parce que l'offre est assez explosée. Et même si 120 battements et Au revoir là-haut ont chacun 13 nominations, ce sont aussi les deux gros favoris. Et à moins de quelques petites surprises, il y en aura forcément, parce que les Césars sont une science inexacte et on ne peut pas prédire ce qui va se passer. C'est un vote de 4248 votants. Donc, on n'est pas au courant de ce qui va se passer, mais pour le coup, je pense qu'on retrouvera ces deux films-là, en tout cas en tête du palmarès.
Alors Fabrice, bien sûr, il y a des catégories les plus populaires, c'est le meilleur film, on l'attend toujours, mais vous, en tant que spécialiste de cinéma, quelle catégorie vous allez regarder ce soir particulièrement ? Est-ce qu'il y en a ?
Moi, j'aime beaucoup la catégorie des espoirs masculins et féminins. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. On ne connaît pas forcément ces acteurs. Ce sont souvent des jeunes qui débutent. Mais à regarder toutes les années précédentes, on se rend compte quand même que les Césars ont eu du pif, comme on dit. Ouais. Parce que beaucoup des acteurs qu'on retrouve aujourd'hui nommés dans les grandes catégories, meilleur acteur, meilleure actrice, ont reçu ou ont été nommés au César du meilleur jeune espoir. C'est une vraie rampe de lancement. Et pour le coup, celui-là, il est intéressant parce que c'est un pari sur l'avenir et pas plutôt le bilan d'une année écoulée.
Alors ça, bien sûr, ça sera à suivre sur France Info toute la soirée. Et ce qu'on attend aussi, Fabrice, ce soir, c'est suite au scandale Weinstein, sait-on s'il y aura des prises de parole particulières ? Ce soir, on sait que les actrices auront un ruban blanc à leur robe. Est-ce qu'on sait par rapport aux prises de parole un peu plus ?
Non, on n'en sait pas plus pour le moment. Pour tout vous dire, on n'arrive pas à voir le conducteur précis de l'émission. Donc, c'est-à-dire qu'il y a énormément de surprises dans ce conducteur. Donc, je pense qu'on nous cache encore des choses. Et non, il va y avoir des prises de parole. Je pense déjà que dans les discours des lauréats, il y aura beaucoup de prises de parole. Il y a eu beaucoup d'agitation ces derniers jours. C'est vrai que tout le monde porte le ruban blanc ce soir, pas seulement les actrices. Tout le monde dans la salle Playel arbore ce ruban qui est vraiment pour montrer l'intérêt du cinéma, même si il est très récent pour les Césars, ça fait 5 jours que ça s'est décidé. L'intérêt contre le harcèlement et les violences faites aux femmes. Il y a aussi la question de la parité qui a été soulevée, parité dans le cinéma. Est-ce qu'il faut faire des quotas dans le cinéma pour que les réalisatrices puissent mieux travailler. Donc c'est vrai que cette cérémonie va commencer dans une ambiance socialo-politique un peu tendue, on va dire. Ce ne sont pas les intermittents cette année, mais ce sont plutôt les questions sociétales qui viennent s'inviter à la cérémonie des Césars. Bon, chaque année, il y a quelque chose qui vient s'inviter à la cérémonie des Césars.
Bien sûr. Et bien, écoutez, on suivra ça avec vous. En tout cas, merci beaucoup, Fabrice Leclerc. C'est à partir de 21h et vous ferez régulièrement des points sur l'antenne. Virginie Petit, on l'a entendu. Donc, voilà, ce conducteur, on ne sait pas ce qu'il y a. Mais cette semaine, forcément, il y a eu des actrices, des productrices, des humoristes qui ont lancé avec la Fondation des Femmes l'opération Maintenant, on agit afin de récolter de l'argent pour aider les victimes qui portent plainte. Ça s'inspire d'une initiative américaine. Est-ce qu'il y a... On sent bien sûr que c'est utile de trouver de l'argent, mais elles ne parlent pas de leur métier.
Non, elles ne parlent pas de leur métier. Oui, ça s'inspire de Time's Up Now, qui a été lancé par les actrices d'Hollywood, enfin, et pas seulement les actrices. Non, elles ne parlent pas de leur métier. Et puis, cette semaine, sur votre antenne, j'ai entendu l'entretien avec Alain Terzian, qui est donc le patron de l'Académie des Césars, hein, et un grand producteur français, et qui disait, en fait, qui parlait d'une espèce d'exception culturelle en France, en tout cas, c'est ce que j'ai compris, et qui se demandait même, il disait, mais non, ça se passe pas comme aux États-Unis, et surtout, on se demande qui a le pouvoir en France désormais, dans le cinéma, hein, on ne le sait plus très bien. Alors, moi, je pense que j'ai la réponse, franchement, en toute modestie. Le cinéma, c'est une industrie, on vit dans un monde libéral. Ceux qui ont le pouvoir, ce sont ceux qui signent les chèques, qui embauchent les gens. C'est ça, le pouvoir, nommer, embaucher les gens, signer les chèques. Et dans un monde de pouvoir, il y a des dérives, forcément, et il y a du harcèlement sexuel et moral. C'est une industrie, elle n'y échappe pas. Voilà.
Emery Doigé, ce soir, voilà, on voit le cinéma français qui va en parler, qui va se mobiliser. Ça peut avoir un impact, toujours ou pas,
ça a toujours un impact quand on communique sur des évidences. Et il faut les répéter, parce que l'enseignement, comme vous le savez, passe par la répétition. Donc plus il y aura de monde qui se manifestera contre ces horreurs, mieux ce sera.
Donc on va voir, en tout cas, ce soir on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h50, Diane Ferschit.
Au Burkina Faso, une trentaine de morts après une attaque contre l'état-major des forces armées et l'ambassade de France. À Ouagadougou, aucune victime française n'est à déplorer. Des attaques terroristes avec notamment une explosion provoquée par une voiture piégée selon le gouvernement burkinabé. 6 assaillants ont été tués. Emmanuel Macron réaffirme ce soir le plein engagement de la France au Sahel. Dans les Alpes-Maritimes, 4 morts dans une avalanche. L'importante coulée de neige s'est produite dans le village d'Entraune, à une centaine de kilomètres au nord de Nice. Cette avalanche est la plus meurtrière de l'hiver. Une enquête a été ouverte pour comprendre les circonstances du drame. Le guide qui accompagnait le groupe va être placé en garde à vue. Deux familles de disparus en Savoie portent plainte pour enlèvement et séquestration. Elles espèrent relancer l'enquête autour du dossier Nordal-Lelandais. Celui-ci a reconnu avoir tué la petite Maëlys. Il est aussi mis en examen et incarcéré pour l'assassinat du caporal Arthur Noyer, disparu à Chambéry. Bruno Le Maire rencontrera la direction de Ford dans les prochains jours. Le constructeur automobile a annoncé ne plus vouloir investir
dans son usine de Blanquefort en Gironde. Près d'un millier d'emplois sont menacés. Le ministre de l'économie va mettre en place un groupe de travail restreint pour discuter directement avec les dirigeants de Ford dont il attend qu'ils tiennent leurs engagements. Les récompenses du cinéma français, c'est dans quelques minutes la 43e cérémonie des Césars avec pour la première fois un César du public pour le film ayant fait le plus d'entrées. Il devrait récompenser Red Dingue de Danny Boone. Parmi les favoris ce soir, 120 battements par minute et Au revoir là-haut.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, vous venez de l'entendre, les Césars, donc ça va commencer dans 9 minutes maintenant, vous pourrez le suivre sur France Info. Mais bien sûr, ce soir, ça sera une cérémonie hautement symbolique après l'affaire Weinstein survenue cet automne. De cette semaine, des actrices et des productrices, des humoristes ont lancé maintenant On agit pour financer les actions de femmes envers la justice. Quand vous avez vu ça, justement, au départ, Emmanuel Pierrat, cet appel, vous trouvez que c'est un symbole fort ou justement, comme le disait tout à l'heure Fabrice Leclerc, ça vient trois jours avant les Césars et il fallait faire quelque chose?
En rappelant aussi que ce soir, on l'évoquait tout à l'heure, les rubans blancs sont mis sur des robes de soirée, c'est-à-dire que la robe de soirée reste obligatoire. Dans le monde moderne, en 2018, où on parle du sexisme, du machisme, des codes, etc., ça montre bien que c'est une soirée de gala, mais malgré tout, on pourrait penser qu'on n'est pas obligatoire d'avoir une robe de soirée pour une femme. Ce qui est quand même, voilà. C'est une petite remarque pour avoir déjà assisté de l'intérieur plusieurs fois à cette soirée qui est assez lénifiante en général. Je veux pas spoiler, le suspense sur les prix. Et puis, de l'autre côté, en plus, il y a une côté bonne conscience et en même temps, on attribue un César ce soir du public au film qui a fait le plus d'entrées, c'est-à-dire à l'humour beauf et à l'argent. En l'occurrence, ça va être Danny Boone, parce qu'il aurait boudé la cérémonie il y a 10 ans, parce que les Ch'tis, quand même, film effondrant, n'avaient pas eu de César. Donc il y a d'un côté des gens qui donnent l'impression de penser, et en même temps, quelque chose de hors sol.
Alors, je vous précise pourquoi Danny Boone va avoir un César ce soir, c'est parce que c'est le film français qui a fait le plus d'entrées. C'est une nouveauté de cette cérémonie cette année, c'est de récompenser par un César du public, en fait, le film français qui a fait le plus d'entrées. Étienne Gérard, il y a juste un petit point politique que je voudrais voir avec vous. Là, on parle beaucoup du scandale Weinstein, et c'est vrai que depuis, on a vu une femme véritablement émerger, c'est Marlène Schiappa. Depuis toutes les semaines, tous les jours, on a l'impression de la voir. Elle est utile aujourd'hui à Emmanuel Macron?
Elle est extrêmement utile à Emmanuel Macron et à tout le gouvernement. D'ailleurs, elle avait un peu émergé avant, pour être tout à fait honnête.
Voilà, pour la suivre, mais les Français peut-être ne la connaissaient pas.
C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus connue que la plupart des ministres, alors qu'elle n'est que secrétaire d'État avec un Marocain relativement modeste. Mais elle a une méthode qui marche. C'est-à-dire que c'est une activiste au gouvernement.
Absolument.
Elle s'exprime sur tous les sujets de société, elle prend à partie l'opinion, elle n'hésite pas à assumer ce qu'elle pense, elle mène une vraie bataille culturelle, et c'est ce qui fait aujourd'hui que c'est une des ministres, un des membres du gouvernement qui imprime. Et aujourd'hui, elle est devenue incontournable.
Elle réagit surtout, vous le dites, Étienne, en effet, mais parfois, le problème sur des décisions de justice aussi, quand elle
Souvient. Je partage tout à fait cette limite-là. C'est vrai que parfois, elle s'exprime avec excès, mais elle assume ce qu'elle pense. Et ça, en politique, c'est toujours bon. C'est une des seules ministres à porter un vrai discours politique structuré et constant.
Aimerait de Léger.
Oui, et je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et en plus, j'ai l'impression qu'elle est en train de créer un autre ministère, qui est ce que j'appellerais le ministère de la nouvelle culture sociale. Et l'avant-gardisme et le modernisme est peut-être passer par elle, en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant chez elle. Et on la voit, ce soir, elle est à la cérémonie des Césars. On va parler finalement plus d'elle que
François Nissen,
qui est la ministre de la Culture. Ouais. Et c'est normal. C'est normal. Est-ce que ce temps va être mort une fois que tout sera réglé? Peut-être, mais pour l'instant, on en profite.
Virginie Petit, il y avait besoin justement d'une femme aussi active, alors qui est tombée malheureusement dans un sujet terrible après l'affaire Weinstein, et à un moment, la parole s'est libérée. C'était la personne qui correspondait à ce moment-là?
Il y avait en tout cas besoin d'un travail sur ces sujets-là. Après, à mon avis, et si on était dans une société vraiment égalitaire, ça pourrait être mené aussi bien par un homme que par une femme. Et ça serait souhaitable que les hommes s'emparent aussi de ces sujets-là. Ouais. Mais oui, il y avait besoin en tout cas d'un travail. Après, elle a effectivement une méthode qui est très personnelle, un peu excessive parfois, et il suffit de mesurer pour voir à quel point elle est présente. Il suffit de mesurer aussi la haine qu'elle suscite, parce que c'est aussi
à cette...
Et c'est à cette haune-là aussi qu'on peut se rendre compte qu'elle a réellement un impact, en tout cas médiatique, et qu'elle, elle est reconnue. Mmh. Oui.
Emmanuel Perrin, sur Marlène Schiappa, est-ce que c'est cette personne justement proactive, plutôt dure, voilà, sur ces sujets, qui dit « moi je ne lâche jamais », alors même vous, en tant qu'avocat, bien sûr, de temps en temps, elle commente aussi cette décision de justice, mais est-ce qu'il ne fallait pas ça, justement, pour cette cause ?
Ah non, très bonne pioche dans un casting par ailleurs lamentable, gouvernemental. Comme vous l'avez compris, c'est mon
mantra ce soir. Il y a ça et les Césars.
Mais de la même façon que moi, j'aime infiniment Christiane Taubira et je trouvais que c'était la seule personne vraiment à sauver absolument dans les gouvernements montés par François Hollande et ses premiers ministres. Donc là, je suis très satisfait et très content. Il y a quelques bourdes, évidemment. Le fait qu'elle prend la parole sur l'affaire Jonathan Daval depuis New York et qu'elle se mêle d'exécutif, se mêle d'un processus judiciaire plutôt très bien mené et en plus depuis New York, c'est-à-dire sans rien connaître du dossier, le fait qu'elle aille se promener avec une jupe dans le 19e arrondissement sur un trottoir pour montrer qu'on ne s'y fait pas agresser, elle est ministre, enfin, elle est beau secrétaire d'État, elle est quand même avec ses gardes du corps, avec tout le cabinet, et elle y va en disant « regardez, les femmes ne se font pas agresser », ça c'est un peu saugrenu. Mais de l'autre côté, un vrai travail, je pense, de fond, notamment sur l'outrage sexiste, c'est-à-dire ce nouveau délit qui va sans doute être voté, la verbalisation, voilà, de c'est même plus de la drague, c'est-à-dire des agressions qui ont lieu des femmes et des remarques, des colibets et des sifflets, ça c'est très bien. Allez. Donc vraiment, moi je salue mon chapeau, merci. Je la garde au générique, c'est la
merci
seule.
Merci beaucoup en tout cas Emmanuel Pierra, je précise, la collection Les Grands Procès, trois premiers volumes sont déjà en librairie le 1er février. Ce soir, vous allez vraiment vous amuser devant les Césars, j'ai l'impression, ouais. Emmanuel Pierra. Merci beaucoup Emery Doliger.
On m'avait dit de placer Flavesson, je l'ai placé.
Ah bah, c'est formidable. Bien j'ai le petit, la une de Corée internationale.
C'est sur la face sombre de l'humanitaire après le scandale Oxfam. Comment ça se passe pour l'ensemble des ONG?
Étienne Girard, la une de Marianne.
C'est France CSF contre France Nutella, les gagnants et les perdants de Macron.